Carnet de région.
Gard,
Aude,
Lozère,
Hérault,
Pyrénées-Orientales.
L'actualité en langue de Roussillon.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau carnet de région, un condensé d'actualité en Languedoc Roussillon. Au sommaire de ce carnet de région, tout d'abord, la nouvelle carte des cantons a provoqué un débat houleux ce lundi au Conseil Général de l'Hérault à Montpellier. Dans deux communes des Cévennes gardoises, à Saint-Félix-de-Palières et Toiras, des citoyens restent mobilisés pour que la pollution d'anciennes mines de plomb soit enfin reconnue. Nous évoquerons dans ce carnet de région la 18e journée nationale de prévention du suicide, organisée mercredi prochain partout en France. En région parisienne, le gouvernement a décidé hier de placer la ville de Torcy en zone de sécurité prioritaire. Alors pourquoi parler de Torcy ? Réponse dans ce carnet de région. Le témoignage d'un marcheur belge parti des Pyrénées-Orientales pour tenter de rencontrer le président de la République à Paris. Et enfin, les vins bio étaient à l'honneur cette semaine à Montpellier, un rendez-vous international initié à l'origine par des vignerons de l'Aude il y a 20 ans. À Montpellier, la nouvelle carte des cantons a été présentée ce lundi par le préfet de l'Hérault, Pierre de Bousquet, lors de la première session plénière du Conseil Général. Une redéfinition géographique du territoire, et ce depuis la loi du 17 mai 2013, pour la réforme des collectivités territoriales. Loi oblige, dans l'Hérault, on passe alors de 49 à 25 cantons. Les vœux du département au sujet de ces cantons ont peu été respectés par le gouvernement. Au micro de RPA, André Vézinet, président socialiste du Conseil Général de l'Hérault, l'a bien fait savoir. Pour lui, cette carte a ravivé la guerre entre l'urbain et le rural.
Un de mes regards les plus intéressés, c'est un regard vers le territoire d'Hérault, c'est-à-dire des fois très loin des bases montpelliéraines où je suis élu. Et donc c'est par cette intelligence du respect de ces espaces de respiration que sont les territoires ruraux pour les urbains et en même temps, les ruraux se tournent vers la ville parce que dans la ville, il y a des commodités, des richesses qu'ils ont envie de consommer. Donc c'est ça qu'on n'a pas essayé de lier d'intérêt et on a coupé, tranché en vertu de principes qui sont des principes hérités de la plus éculée des technocraties.
Donc des corrections vont être sûrement apportées. Comment ça va se dérouler par la suite avec les élus ?
Vous savez, tout a été prévu pour nous écraser, hein, puisque nous nous sommes saisis. Songez donc, nous sommes une des rares institutions, la seule où chacun est élu au suffrage universel uninominal, eh bien, on nous donne le droit d'émettre un avis. Et derrière, cet avis risque d'être considéré comme quantité négligeable. Donc, on risque d'avoir émis un avis et de voir toute notre réprobation de cette pratique complètement ignorée. Donc, on va probablement tourner la page, je le crains en tout cas. Nous allons essayer de voir si on veut bien nous entendre, condescendre à nous entendre en haut lieu pour que je fasse au moins valoir tout l'intérêt que comportait la première carte, parce que c'est la seule qui m'intéresse, la première carte que j'avais soumise.
Donc saisir le Conseil d'État en d'autres termes ?
Oui, mais le Conseil d'État, que je sache, le Conseil d'État, il ne fait pas les lois. On est fou dans ce pays. Maintenant, tout se juge au Conseil d'État et au Conseil constitutionnel. Donc je vais voir, parce que je n'ai pas d'idée arrêtée a priori. Ce que vous devez savoir quand même, c'est que on n'est pas en train d'analyser un caprice du président Vézinet là. Il y a à l'heure actuelle un nombre très important, au moins pas loin d'une cinquantaine de départements, la moitié des départements qui sont contre les cartes proposées. Et dans ces départements, il y a des départements de gauche et des départements de droite. Donc nous ne sommes pas non plus dans une politisation outrancière du débat. Il y a derrière une véritable pensée, une pensée forte, qui est une pensée qui concerne le citoyen, qui concerne l'administré, qui concerne l'électrice et l'électeur. Et ça, pour moi, ça a toujours de la valeur.
À l'issue de ce débat, les conseillers généraux ont voté majoritairement contre cette nouvelle carte des cantons. Partons maintenant en pays cévenol, à Saint-Félix-de-Palières et Toiras, deux communes rurales au cœur d'un paysage très vallonné. Sauf qu'ici, les montagnes ont été exploitées pour leurs ressources en zinc et en plomb. Depuis la fermeture des mines cévenoles en 1971, aucune opération de dépollution n'a été entreprise. Malgré des rapports alarmants, l'État tarde à prendre en compte la situation. Face à ce silence, des citoyens s'organisent, notamment l'association des riverains des mines de la Croix de Palière, qui ont organisé une réunion publique samedi dernier. Près de 130 personnes se sont réunies à Toiras pour écouter Stéphane Garcia, ingénieur des mines. Il a présenté ses conclusions sur un rapport de 2004 de la société Géodéris et rendu public en 2008. Pour le docteur François Simon, membre de l'association des riverains, les résultats présentés sont loin d'être étonnants.
C'est vraiment pas une surprise. Quand on parcourt le rapport d'ICF, qui finalement n'est pas rendu public encore actuellement, mais qui est en mairie à Toiras, qui est en mairie à Saint-Félix, dont certains journalistes disposent de certaines copies, et qu'on peut le lire, on voit qu'il y a déjà des recommandations. Même si ce rapport est incomplet, il y a déjà des recommandations. Ce rapport a divisé la zone en 5 parties. Déjà, il recommande ce qu'on appelle un plan de gestion pour les parties 1 et 3, c'est-à-dire finalement des gros travaux de réhabilitation. Pour les zones 2 et 4, ils estiment qu'il faudrait prendre des mesures un petit peu, je sais pas comment on appelle ça, ces mesures de précaution, de se laver les mains systématiquement, de se déchausser, de passer la serpillière chez soi, etc., etc. Mais il y a quand même des zones qui sont manifestement fortement polluées, ce qui n'est pas une surprise, puisque de toute façon, les choses n'ont pas changé fondamentalement en 5 ans. La situation est strictement la même. Maintenant, évidemment, on attend surtout que la préfecture, finalement, convoque un petit peu les citoyens, les associations dont nous sommes, et les responsables pour présenter officiellement enfin le rapport, parce qu'on nous balade quand même depuis presque des années avec ça. Ça fait quand même 2 ans que le rapport lui-même, ICF, est quand même déjà sorti en 2013. Il y en a un intermédiaire, entre guillemets, comme il l'appelle, qui était sorti en novembre 2012, dont on n'a jamais eu connaissance. Bref, qu'enfin on se mette autour de la table, avec aussi les autorités, les municipalités, etc. Ça tombe bien parce qu'on est près des municipales, pour qu'enfin, d'abord on fasse un état des lieux qui va confirmer cette pollution, et deux, qu'on propose des solutions.
Un sujet de Rémi Goujon pour Radio Escapade.
Carnet de région, l'actualité en Languedoc-Roussillon.
La 18e journée nationale de prévention du suicide a lieu mercredi prochain. L'occasion de rappeler ce constat alarmant. En France, avec 10 000 morts et 200 000 tentatives par an, notre pays connaît un taux de suicide au-dessus de la moyenne de l'Union européenne. Plus inquiétant encore, le Languedoc-Roussillon est la région la plus touchée. Daniel Berchard, président de l'association SOS Amitié Montpellier-Languedoc, nous parle de l'évolution de ce mal-être.
Ce qu'on constate au cours de ces dernières années, c'est que, par exemple, le temps moyen d'une conversation augmente. Par exemple, on a eu 5% d'augmentation par conversation. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? On s'est penché un petit peu sur ça. Eh bien, ça semble signifier que les appelants ont besoin d'être écoutés plus longtemps. Ça veut dire que les difficultés qu'ils ont affrontées sont plus graves qu'il y a quelques années. Ça demande plus d'explications. Bien sûr, j'allais dire que la tradition SOS est d'écouter au maximum sans que ça soit démesuré, parce qu'il faut aussi, bien sûr, laisser la place à d'autres appels. Il y a probablement un alourdissement. Le ressenti est certainement beaucoup plus grave chez les appelants qu'il y a quelques années. Ça demande plus de temps, plus d'explications, c'est un petit peu plus difficile à venir, à sortir, à s'exprimer. Donc ça veut dire que je crois que les problèmes ne vont pas en s'allégeant. En Languedoc-Roussillon, on dépasse de quelques points la moyenne nationale. Notre région est particulièrement sensible. Il faut dire aussi que c'est une des régions qui se situe parmi pratiquement les plus pauvres. Et je ne sais pas si, comme dit la chanson, la misère est moins grande sous le soleil, mais en tout cas, on constate malheureusement que dans le Languedoc-Roussillon, on détient aussi encore ce record régional par rapport à notre moyenne nationale. On se suicide plus en Languedoc-Roussillon que dans les autres parties de la France.
Justement, pour les personnes qui sont à notre écoute, comment elles peuvent voir si un proche est dans cet état-là ?
Une personne qui va être en dépression, généralement, ça se voit, ça se sent, ça s'entend. C'est une personne qui va se couper de ses relations, qui va abréger les communications téléphoniques, qui parfois ne répondra même pas au téléphone, qui va s'enfermer chez soi. Donc ça, ça se voit, ça se sent. Et parfois, tendre la main, faire un geste en direction, aller voir cette personne, lui proposer si elle a besoin de lui faire une course, si elle a besoin de quelque chose, parfois suffit à arrêter cette espèce de machine descendante qui peut amener au suicide.
Là, vous parliez de tendre la main à quelqu'un, lui proposer un service, quelque chose pour l'aider. Mais est-ce que parler du suicide, de ce mal-être, est-ce que ça peut aider quelqu'un ou au contraire, il ne faut pas ?
Je dirais que chaque cas est particulier et chaque personne a son propre tempérament, sa propre personnalité. Mais je crois qu'en règle générale, et c'est ce qu'on essaye toujours de faire à SOS Amitié, c'est, j'aime bien ce slogan, c'est de mettre des mots, M-O-T-S, sur les mots M-A-U-X. Et je crois que quelqu'un qui vit une dépression, si on peut l'amener à nommer cette dépression, qu'elle exprime ses idées suicidaires, là on peut, je crois, par l'écoute, faire un travail important, c'est-à-dire permettre à cette personne de s'exprimer. Il n'y a rien de pire que de garder en soi une angoisse qui va rester diffuse, qui va vous ronger, alors que l'exprimer va permettre de prendre de la distance. On redevient un peu maître de ses sentiments et de ses impressions. Alors, c'est difficile. Tout le monde n'y arrive pas. Ça demande souvent un travail un petit peu compliqué. Ça peut aussi aller dans le sens du d'écoute et qui peut être des fois un peu longue. Parce que, justement, il faut essayer de résoudre cette angoisse, que la personne ose en parler de ce qu'elle ressent au plus profond d'elle-même, de ses peurs, de ses angoisses. Et à partir de là, peut-être permettre justement une certaine reconstruction de soi. Mais c'est difficile et on n'y arrive pas tout le temps, malheureusement.
Un sujet réalisé par Maxine Triano de Radio FM+. Vous pouvez contacter SOS Amitié Languedoc 24h sur 24 au 04 67 63 00 63. En Lozère, depuis 22 ans, soit la création du centre de bec de jeu à Balsiège, près de Mende, l'école élémentaire Bel Air de Torcy, en banlieue parisienne, vient chaque année en classe de découverte. Et les élèves d'aujourd'hui sont les enfants des élèves d'hier. Un lien fort s'est donc noué entre les animateurs de la Ligue de l'enseignement, qui gère le centre de bec de jeu, et ses familles de la ville de Torcy. Ludovic Terol de 48 FM s'est rendu au centre pour rencontrer Lozérien et parisien.
Torcy, ville de Seine-et-Marne en banlieue parisienne, compte 23 000 habitants et depuis 22 ans, son école élémentaire, l'école Bel Air, a envoyé 12 000 élèves dans le centre de bec de jeu à Balsiège en classe de découverte. On peut ainsi dire que la moitié de la ville est venue dans le centre suivre les séjours à la carte proposés par la Ligue de l'enseignement. Claude Bonnefille, responsable du domaine de bec de jeu, secrétaire général adjoint de la Ligue de l'enseignement.
L'école Bel Air de Torcy, c'est sûr, c'est une longue histoire puisque ça fait 22 ans que le centre est ouvert et Monsieur Nemo et ses collègues sont venus dès la première année, ont réussi à trouver les financements, l'énergie, les bénévoles pour venir tous les ans. Ils viennent donc en classe de découverte depuis 22 ans, mais aussi grâce à leur association qui s'appelle Arché, ils viennent pratiquement tous les ans pendant leurs petites vacances avec certains enfants au niveau associatif pour travailler encore sur le territoire. Donc, pour l'école Bel Air et pour la ville de Torcy, Bec de Jeu, c'est presque un petit quartier de leur ville. Et cette année, notamment, 4 ou 5 enfants sont ici sur le séjour. Et en fait, ces enfants, leurs parents sont venus il y a 20 ans en tant qu'élèves. Donc une génération vient de passer, vient de sauter.
Activités de pleine nature, découverte de l'environnement, animalier, socio-économique, historique, cours pédagogiques, temps de découverte, de régulation. Les élèves âgés de 9 à 11 ans découvrent un environnement loin des tours et du bitume et surtout apprennent à vivre ensemble.
On a appris un petit peu à vivre ensemble. Comme on avait un peu de mal au début dans la classe, on est parti en classe découverte pour apprendre à vivre ensemble. Et puis ça marche, ça commence à marcher. Et on apprend aussi de la nature parce qu'on est dans une ville où il n'y a que des immeubles et des voitures. Là, on voit la nature.
Bon, là, on est à Bec de Jeu, en fond de vallée. On est plus dans la nature qu'à Paris, puisque là-bas, c'est plus l'environnement avec les bâtiments, la cité. Puis ici, c'est plus naturel, il y a des hameaux. On est plus dans le temps passé, dans l'histoire, dans la nature. On a fait de la spéléologie, on a vu des chauves-souris, on a appris à peu près c'est quoi une grotte.
Quand on est à Paris, on trouve pas beaucoup de roches comme ici, de paysages comme ça. En plus, là, on a découvert plein de choses qu'on connaissait pas. On s'amuse beaucoup, on a appris plein de choses. Et je pense que quand demain on retournera à Paris, on va connaître plein de choses et on pourra les montrer aux gens qui sont à Paris.
Yvan Nemo, directeur de l'école de Torcy, est là depuis le début, enfin presque, il n'a manqué que la première session et vient depuis 21 ans.
Au départ, ça avait une fonction de sécurité. On avait confiance, totalement confiance dans l'équipe. Que ce soit sur la vie quotidienne, que ce soit sur l'éducatif, que ce soit sur les contenus, on a vraiment trouvé ici un outil professionnel pour nous, pour les enfants, qui était extrêmement pertinent. Donc forcément, il y avait une dimension sécurité, une dimension confiance. Et au départ, on a fonctionné juste comme ça. On ne s'est pas vraiment posé de questions. On est revenu une fois, deux fois, trois fois. Et à un moment donné, au bout de quatre ou cinq fois, on a commencé à comprendre qu'il se mettait en place autre chose. Une autre dimension. Alors maintenant, évidemment, 20 ans après, c'est encore plus fort. Un outil extrêmement riche et qui va vraiment en profondeur, quoi, qui fait que on est tout sauf dans la superficialité. De toute façon, dans l'éducation, on ne peut rien faire si on est superficiel. On peut travailler que dans cette dimension, qui est une dimension où d'abord il faut se donner du temps. Et puis, il faut aussi l'autre aspect, c'est l'authenticité.
Et si les enfants sont repartis hier à Torcy, nul ne doute que d'autres reviendront l'an prochain.
Carnet de région, l'actualité en Languedoc-Roussillon.
Gerrit Adriansen vit dans le petit village de Dor, près de Font-Romeu, depuis 1984. Âgé de 57 ans, l'homme d'origine belge s'est lancé dans une très longue marche vers la capitale pour remettre un courrier au président de la République et faire valoir ses droits à une indemnité de chômage. Ce spécialiste de courses de montagne a quitté sa Cerdagne il y a une dizaine de jours et c'est en direction de Millau qu'il a fait sa halte à Lodève. Retour sur les motivations de cette marche militante au micro d'Alain Mendez de Radio Lodève.
Fin 2010, je suis licencié verbalement par mon patron. 2011, au mois de mai, j'ai saisi le prud'homme et j'ai gagné. J'ai dû attendre mes papiers, surtout le fameux papier Pôle emploi. J'ai dû attendre plus de 18 mois et le Pôle emploi me dit, en gros, ça a duré trop longtemps, tu n'as pas le droit d'indemnisation. Voilà. Alors, j'ai fait d'abord appel chez le médiateur, déjà 6 mois, avant que je sache vraiment que je n'ai aucun droit. Et RSA m'ont dit, ta femme gagne de l'argent, tu n'as pas le droit de RSA. Alors j'ai dit au mec des syndicats, il ne me reste qu'une chose, j'y vais à pied à Paris et je vais ramener une lettre à M. Hollande pour demander la justice. Quoi. On a envoyé une lettre à M. Hollande avec tout le dossier entier. Maintenant, je veux aller au Élysée avec la même lettre pour donner symboliquement.
Et le départ là, donc ça a démarré mardi dernier, c'est ça ?
Mardi matin.
Et comment ça se passe ? Donc là, tu étais tout seul et tu as une carte et un sac à dos ?
Voilà, c'est tout. Mais le sac à dos, il y a tout dedans pour l'hiver, parce que quand même, on est en hiver. Après, j'ai mis des vêtements propres. Quand j'arrive au Élysée, je vais être habillé un peu propre aussi quand même. Voilà. Et la nourriture, j'achète au bord de la route, quoi. J'ai défini en gros, là, tu vois, c'était prévu de Béziers, Lodève, Millau. Millau, je veux aller à Saint-Flour. Saint-Flour, Clermont-Ferrand, Nevers, et après à Paris. J'essaie de faire 50 km chaque jour, voilà. C'est le désespoir qui donne la morale, quoi.
Le témoignage de Gerrit Adriansen, qui après avoir marché près de 1000 km, espère rejoindre la capitale à la fin du mois de février. Un rendez-vous international maintenant pour les vins bio s'est tenu cette semaine à Montpellier, les 27, 28 et 29 janvier dernier. À l'origine de ce salon, des vignerons de l'Aude qui ont accueilli les premières éditions il y a presque 20 ans à Narbonne. Histoire et enjeux de cette réunion au micro de Nathalie Dessos pour RCF Pays d'Aude.
Pour ce cru 2014, le salon millésime bio de Montpellier accueille 800 producteurs issus de 12 pays différents et des acheteurs du monde entier. C'est un véritable centre d'affaires international. Et je vous propose un zoom sur les participants au doigt avec le témoignage du vigneron Louis Fabre de Luc-sur-Orbieu. Mais produire du vin bio dans l'Aude, est-ce une mode ?
Je ne souhaite pas être en culture biologique pour que ce soit plus difficile. C'est pas un parcours du combattant. C'est plutôt une réponse possible à un instant donné, dans un environnement donné. Nous avons la chance ici d'avoir un vent dominant qui est le Cers, qui est sec, et donc les atteintes du mildiou sont très très inférieures à celles qu'elles sont en Champagne. Enfin, c'est beaucoup plus facile d'être vigneron bio à Luc-sur-Orbieu qu'en Bourgogne ou dans le Bordelais. Nous avons un climat qui est quand même chaud et relativement sec. C'est favorable à la culture de la vigne. Tout n'est pas facile. Hein. Il y a la lutte contre la flavescence dorée, qui est pas évidente en culture biologique. La lutte contre le démis. Assez souvent, les gens disent, vous êtes en culture biologique, donc vous allez dans vos vignobles une fois par an pour cueillir les raisins. Non, la cueillette de la vigne n'a jamais bien fonctionné.
Louis Fabre, vigneron bio de Luc-sur-Orbieu. 80% de ses vins sont bio et 20% sont dans le haut de gamme. Il est fier d'annoncer qu'au dernier concours Cru Corbière, c'est une médaille d'or qui a été remportée notamment par Robert Joyeux, qui produit du vin bio à Ornaison. La qualité des vins bio des Corbières est vraiment reconnue. Participe au Salon Millésime Bio de Montpellier, entre autres Karine Mirouz du château Beauregard, Mirouz à Bizané, Christophe Bousquet du château Pêcheredon à Narbonne, donc Louis Fabre du château de Luc-sur-Orbieu. Le Salon Millésime Bio de Montpellier, c'est un salon de pro avec des tables toutes égales. La différence entre les producteurs, c'est le vin lui-même qui l'a fait. On retrouve l'ambiance de ce salon sur le site internet www.millésime-bio.com.
800 producteurs en provenance de 12 pays ont participé à cette 21e édition du Salon Millésime Bio. C'est la fin de ce carnet de région, l'actualité de la semaine, vue par des radios associatives du Languedoc-Roussillon. Merci à vous de l'avoir écouté. Le mois prochain, Radio Pays d'Hérault passe la main à Radio Alliance Plus dans le Gard pour la présentation de ce magazine. Excellent week-end à tous.